Moi, j'étais venu déjà à Brest en commun, mais il y a longtemps, il y a presque 10 ans, peut-être en 2011. Donc, je suis très content de revenir pour cette nouvelle édition. Comme il vous a été dit, moi, à la base, je suis plutôt un spécialiste des questions de droit du numérique. Et je me suis beaucoup intéressé pendant longtemps à la question des communs numériques. Alors, je vais essayer de prendre ce micro à la main. Ce sera plus simple pour moi, si c'est possible. Ah, il y en a un autre. Est-ce que... Oui, voilà. Ce sera plus simple pour moi comme ça. Oui, donc moi, je me suis intéressé pendant longtemps à la question des communs numériques et des questions de propriété intellectuelle. Et là, aujourd'hui, on m'a demandé de faire une intervention un peu différente, qui va plutôt parler des questions écologiques. Je ne suis pas un spécialiste d'écologie de mon côté, mais je crois commencer à un peu connaître la question des communs depuis maintenant plus de 10 ans que je m'y intéresse. Et je voulais vous faire part de réflexions qui tiennent à l'émergence de ce qu'on appelle la thématique des droits de la nature, qui me paraît un sujet vraiment très important, qui est une nouvelle façon de concevoir ce qu'on appelle le droit de l'environnement. Et je pense qu'en la croisant avec la question des communs, plus traditionnels, on fait émerger des sujets qui sont vraiment importants et qui mènent depuis, disons, 2 ans, à revoir vraiment en profondeur la manière dont je pensais la question des communs. Donc c'est un peu, voilà, c'est la première fois que je fais une conférence entière sur ce sujet, donc c'est important pour moi de partager avec vous ces réflexions et j'espère qu'on aura un échange là-dessus. Alors, l'ordinateur s'est éteint, non, ça va. Alors pour commencer, on va peut-être faire un lien avec l'actualité. Vous avez vu l'actualité assez dramatique de cet été avec les incendies qui ont eu lieu dans la forêt amazonienne, notamment au Brésil. Grand moment d'impuissance collective face à ce qui est un véritable drame. Au moment de cet événement, vous avez vu que notre président Emmanuel Macron avait fait une déclaration dans laquelle il disait « Nous devons répondre à l'appel de la forêt, de l'Amazonie, notre bien commun ». Et donc, nous allons agir. Alors, c'est pas la première fois, d'ailleurs, qu'Emmanuel Macron parle des communs. C'est revenu plusieurs fois dans ses discours ces dernières années. Et là, il l'emploie à propos donc, de cet événement, de l'incendie de l'Amazonie. C'était une référence intéressante, si vous voulez, qui parle de communs à ce moment-là. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il sous-entend que l'Amazonie est sous le sol du Brésil. C'est donc une portion du territoire brésilien. Le président brésilien avait bien fait comprendre à l'ensemble de la communauté internationale que ces incendies étaient l'affaire du Brésil, et qu'il n'entendait pas qu'il y ait d'ingérence dans cet événement du reste des pays. Et en employant le mot « bien commun », si vous voulez, Emmanuel Macron sous-entend que non, en fait, que la souveraineté du Brésil devrait s'arrêter à un moment donné, et que l'importance de l'Amazonie dans les équilibres globaux fait en fait qu'un pays ne devrait pas pouvoir revendiquer un contrôle total sur cet écosystème qui est sur son territoire, et que ça légitimerait une certaine forme d'ingérence dans les affaires de l'État. Donc ça, c'est quelque chose qui en fait revient parfois dans la question des communs, c'est le lien entre les communs et la souveraineté des États. C'est quelque chose dont on parlait beaucoup dans les années 90-2000, on appelait ça la thématique des biens communs mondiaux, ou des biens publics mondiaux. Vous avez tout le mouvement altermondialiste qui parlait de l'eau comme bien commun, du climat comme bien commun, de l'atmosphère comme bien commun, et qui demandait en fait à la communauté internationale de s'organiser de manière à mettre en place une gouvernance qui aurait permis une gestion de ces biens à un niveau supérieur aux États pour en garantir en fait. Et ce que ça nous a montré l'épisode des incendies en Amazonie, c'est qu'on peut dire que la forêt amazonienne est un bien commun, mais ça ne le deviendrait justement que si une gouvernance était capable de s'organiser au niveau mondial pour régler ce type de questions. Et aujourd'hui, on voit bien que dans le climat, enfin dans le dispositif géopolitique actuel, il n'y a pas d'instance en fait qui permettrait justement d'agir, comme dit Emmanuel Macron, sur ce problème-là. On est renvoyé à la souveraineté de l'État. On peut penser que l'Amazonie est un bien commun, mais actuellement, elle ne l'est pas, parce qu'on n'a pas ces mécanismes institutionnels qui nous permettraient d'avoir une régulation par-dessus la souveraineté des États. Cette histoire m'a fait penser à une autre histoire très ancienne, parce qu'il y a un lien très intime entre les communs et la forêt. C'est même un peu à cet endroit que l'histoire a commencé, si vous voulez. Là, je vous ai mis un document qui s'appelle la Charte des forêts, la Carta Foresta, qui est un document de l'histoire important de l'histoire d'Angleterre. C'est un document que j'ai vu de mes yeux à la bibliothèque anglaise, hein, qui le conserve encore. Et la Charte des forêts, donc, c'est un document qui date du début du XIIIe siècle. C'est l'épisode, si vous voulez, on est sous le règne de Jean sans terre. C'est le roi de l'histoire de Robin des Bois. Vous allez voir que ce n'est pas complètement anodin. À cette époque-là, il y avait des forêts qui étaient appropriées, il y avait des forêts royales, il y avait des forêts seigneuriales aussi. Mais la plupart des forêts du royaume n'étaient à personne, en fait. Elles avaient un statut particulier, elles avaient un statut de bien commun. Elles n'appartenaient à personne parce qu'elles étaient ouvertes à l'usage de tous. Et la population avait, par la coutume d'Angleterre, un droit à rentrer dans la forêt pour satisfaire ses besoins essentiels. Notamment, ils pouvaient prélever du bois pour se chauffer, ils pouvaient amener leurs animaux pour paître dans la forêt, notamment on nourrissait les cochons avec les glands, ils pouvaient prendre du miel, prendre des fruits, etc. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire, si vous voulez, la forêt à l'époque, c'était le revenu de base de la population. Ça garantissait à tous un certain niveau de subsistance et que personne ne tombe au-dessous d'un certain seuil de pauvreté. Donc ça avait un rôle très très important pour la résilience de ces sociétés. Et au début du XIIIe siècle, Jean sans terre est en conflit avec la France, on est en plein pendant la guerre de Cent Ans, et il décide de s'approprier les forêts du royaume, parce qu'il a besoin pour ses armées. Et donc il supprime les droits d'usage collectif sur la forêt. Et ça déclenche en fait une révolte populaire, qui se double d'une révolte des barons anglais, hein, qui étaient aussi contre la politique du roi. Et finalement, Jean sans terre est mis en échec par cette révolte, et il adopte deux documents. Il y en a un qui est très connu, qui s'appelle la Magna Carta, qui est la grande charte d'Angleterre, qui est, on va dire, l'ancêtre des déclarations des droits de l'homme, qui disent que la souveraineté du roi est limitée par des droits fondamentaux. Il n'a pas le droit, par exemple, de mettre les gens en prison sans procès. Hein, Norton qui dit bonjour. Et il prend dans la foulée un deuxième acte qui est la Carta Foresta, la Charte des forêts. Il dit oui, le peuple anglais a des droits fondamentaux sur les forêts, notamment tous ses droits d'usage collectif. Et je trouve que c'est assez intéressant, vous allez voir, de mettre ça en lumière. On considère souvent que la Charte des forêts, c'est le premier acte qui est juridiquement consacré à l'existence des communs, ou au moins des usages communs sur les ressources. Et je trouve que c'est assez intéressant à mettre ce qui s'est passé en Amazonie. Vous savez qu'en Amazonie, par exemple, les indigènes qui vivent dans la forêt, les Indiens qui vivent dans la forêt, ont des revendications très fortes, hein, sur leurs droits fondamentaux à vivre dans ces milieux. Ils revendiquent quelque chose qui pourrait être une sorte des chartes des forêts du XXIe siècle. Mais vous allez voir qu'il y a des différences très importantes par rapport à ce que ce document-là prévoyait. Alors ici, à Brest en bien commun, vous avez, j'ai pris le dépliant qui annonce le programme. C'est intéressant parce que de quoi on parle quand on parle des communs? C'est important quand même de l'avoir en tête. Votre document nous dit « Le partage est au cœur du concept de commun. Un commun désigne l'organisation d'un groupe de personnes, qu'un groupe de personnes met en place et fait vivre afin de gérer collectivement une ressource. » Pour partager, préserver, utiliser cette ressource, la communauté définit des règles et une gouvernance qui lui sont propres. L'usage et la protection de la ressource sont privilégiés, mais pas son appropriation. Le collectif de taille très variable gère la ressource et définit des règles spécifiques. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Et à la fin, on nous dit la ressource est naturelle, matérielle ou immatérielle, une forêt, un jardin, un habitat, une machine-outil, un logiciel, un morceau de musique, des savoirs. Alors ça, c'est une définition qui est très, je dirais maintenant, qui est devenue très classique, qui est très répandue, hein, des communs. C'est un peu de cette manière-là qu'on présente les communs aux personnes qui ne connaissent pas le sujet. C'est devenu la porte d'entrée, la grande porte d'entrée vis-à-vis des communs. Et c'est une façon d'en parler qu'on retrouve un petit peu partout maintenant. En fait, c'est une définition qui nous vient... c'est un écho des travaux de cette personne dont je vais pas mal parler cet après-midi, qui s'appelle Elinor Ostrom, qui est une chercheuse, une économiste américaine, qui a eu en 2009 le prix Nobel d'économie pour ses travaux sur les communs. Donc cette année d'ailleurs, et d'ailleurs ce mois-ci même, on fête les 10 ans du prix Nobel d'Elinor Ostrom. Elle l'a eu en octobre 2009. C'est un peu à elle, hein, qu'on doit quand même, je pense, d'être ici aujourd'hui, parce que c'est vraiment ses travaux qui ont relancé la question des communs au niveau mondial. Le fait qu'elle ait eu le prix Nobel a donné une légitimité au sujet. Et voilà, donc c'est important de la citer. Vous allez voir qu'elle est aussi au cœur de cette façon de présenter les communs. Cette façon de présenter les communs, elle repose sur un triptyque. On dit en général qu'un commun, c'est une ressource qui est gérée par une communauté qui se dote d'une gouvernance pour établir des règles qui vont permettre d'organiser le partage et la préservation de la ressource dans le temps. Eline Rostrom, elle, son sujet de prédilection, hein, c'est celui sur lequel elle a consacré toutes ses études, c'était d'étudier la manière dont des communautés prenaient en charge des ressources naturelles. Elle a beaucoup étudié des pêcheries, des gestions de forêts, des gestions de pâturages. Et elle, ce qu'elle a essayé de montrer, c'est que la gestion directe par la communauté sous la forme de l'auto-organisation pouvait, dans certains cas, être un mode durable, c'est-à-dire permettre l'utilisation de la ressource, mais permettre aussi qu'elle dure dans le temps. Elle avait une préoccupation écologique fondamentale. Elle, son grand sujet, c'est de savoir est-ce que l'humanité est capable de prendre soin de ressources vitales que sont les ressources naturelles. Et comment, quel est le meilleur moyen de garantir que les ressources ne soient pas surutilisées et détruites. Et ce qu'elle a essayé de montrer, c'est que dans certains cas, contre ce que disait l'économie dominante de l'époque, l'auto-organisation par la communauté peut être le mode de gestion le plus durable. Elle étudie par exemple dans son grand livre qui s'appelle Governing the Commons des cas de systèmes d'irrigation qui existent en Espagne et qui existent depuis 1000 ans en fait. Et elle montre que depuis 1000 ans, ces communautés arrivent à gérer la ressource en eau et ne l'ont jamais épuisée. Voilà. Ils ont tout le temps réussi à mettre en place des règles qui ont beaucoup évolué dans le temps, mais qui ont permis la gestion durable de ces ressources. Vu l'urgence qu'on vit actuellement sur les questions écologiques, ça remet, si vous voulez, Eline Rostrom, son discours est très très important aujourd'hui, et il est très important de s'en souvenir, parce que c'est souvent un peu absent de notre paysage mental. Donc, on finit par traduire Ostrom comme voulant dire qu'un commun, c'est une communauté qui s'auto-organise pour préserver une ressource avec une gouvernance qui établit des règles. Donc moi, ce triptyque, j'ai fini par l'appeler la vulgate du commun. Parce que vous allez voir que ça induit quand même des simplifications, notamment, et aussi par comme disait, qui m'amène aujourd'hui à me dire qu'il voudrait qu'on s'interroge beaucoup sur qu'est-ce que sous-entend cette manière de définir le commun et quelles conséquences ça peut avoir. Juste pour, avant d'aller plus loin, je reprécise deux, trois choses sur Eline Rostrom. Eline Rostrom, elle est surtout connue pour avoir dénoncé ce qu'on appelait la tragédie des communs. C'était une théorie économique qui avait été mise en avant par un personnage qui s'appelle Garrett Hardin, qui est un économiste américain aussi, qui avait essayé de montrer que la gestion en commun des ressources était impossible et menait systématiquement à leur destruction. Et il avait fait ça dans un article qui s'appelle « La tragédie des communs », dans lequel il prend l'hypothèse d'un champ et il imagine des éleveurs qui amènent des bêtes sur le champ et il dit « voilà, c'est un commun, donc ils peuvent le faire sans entrave comme ils le souhaitent ». Il dit « par le fait même de la rationalité humaine qui cherche à maximiser ses profits, si vous laissez une ressource comme ça en partage, chaque éleveur aura nécessairement toujours intérêt à rajouter une bête supplémentaire sur le champ. Tous les éleveurs vont faire ça. Et au bout d'un moment, vous voyez, le champ sera envahi de bétail. Et donc, in fine, on ne peut conduire qu'à une tragédie des communs, c'est-à-dire une destruction de la ressource par surutilisation, parce qu'elle était laissée ouverte à l'usage de tous. Et alors ça a l'air de rien comme ça, mais ce paradigme-là a été dominant dans l'économie et est encore très puissant dans l'économie, dans les théories économiques, pendant des décennies en fait. Il a publié son article en 1968, et Eline Rostrom, elle travaille plutôt au début des années 90, et jusqu'à elle, si vous voulez, tous les cours d'économie discréditaient systématiquement la gestion en commun comme quelque chose de dangereux écologiquement, parce que menant forcément à la destruction des ressources. Et Hardin, en fait, dit la seule manière de gérer des ressources, c'est de le faire par le biais de la propriété. Soit on met des droits de propriété privés sur les ressources, et c'est alors le marché qui gérera efficacement nos ressources et qui nous permettra de les conserver dans le temps. Soit on met des droits de propriété publique, et c'est l'État qui gérera les ressources et qui les préservera. Entre les deux, il ne peut y avoir qu'une tragédie. Ostrom, elle, tout son propos, ça a été de montrer que ça pouvait être faux. Et elle l'a montré empiriquement en visitant des communautés, en documentant leurs pratiques, qu'en fait, sur le terrain, il y a à certaines conditions, on peut arriver à une gestion durable de ressources en commun. Et Ostrom, elle a tout un discours qui est très important sur le droit de propriété. C'est-à-dire qu'elle critique beaucoup la manière dont les économistes définissent le droit de propriété comme étant un droit exclusif et unifié, c'est-à-dire un droit qui appartient à une seule personne qui l'utilise pour contrôler complètement la chose qu'il possède. Elle, ce qu'elle constate dans ses communautés, dans les forêts qu'elle étudie, dans les réserves de poissons qu'elle étudie, elle voit que les communautés s'organisent autrement, c'est-à-dire qu'ils démontent le droit de propriété, et ils se répartissent entre eux des éléments, c'est ce qu'on appelle la théorie du faisceau de droit qu'elle a contribué à établir, et que c'est cette répartition de la propriété éclatée entre les différents membres de la communauté qui crée ce qu'elle appelle un système de gouvernance à travers des institutions, et c'est ce dispositif qui permet la gestion durable. C'est comme un système, si vous voulez, de contre-pouvoir. Certains vont avoir un droit d'accès, d'autres peuvent avoir des droits de prélèvement. Vous en avez qui vont avoir des droits de gestion de la ressource, d'autres vont avoir des droits d'exclusion, ça veut dire le droit de dire qui peut avoir accès ou pas à la ressource. Et à la fin, il peut y avoir un droit d'aliénation, qui est le droit de la ressource. Et elle montre que dans chaque commun, le faisceau de droits se répartit d'une manière différente, en fonction des circonstances locales, et que c'est cette souplesse, si vous voulez, qui permet l'usage en commun des ressources. Alors, donc, moi ce qui m'intéresse maintenant, c'est de voir qu'il y a aujourd'hui, il y a d'autres approches qui apparaissent, qui sont un peu différentes, et qui mettent en avant d'autres logiques, qu'on retrouve souvent sous la dénomination les droits de la nature. Alors je vous montre juste un exemple pour vous montrer, vous faire approcher ce que ça pourrait être. Ça, c'est un projet qui est porté par une association française qui s'appelle Vercors Vie Sauvage. C'est une association qui a créé un concept qu'ils appellent les réserves de vie sauvage. Et ils proposent de racheter des parcelles de forêt en crowdfunding. Donc ils lancent un appel à la population pour réunir des sommes. Là, ici, c'est dans le Vercors. Il y a une forêt qu'un propriétaire privé utilisait comme une réserve de chasse. Et il a décidé de la mettre sur le marché. Donc l'association se propose de réunir une certaine somme pour racheter au propriétaire la parcelle, ça fait à peu près 500 hectares. Et son projet, c'est de cette parcelle, on va la laisser en libre développement, c'est-à-dire on va ne plus gérer la forêt, ne plus l'utiliser comme réserve de chasse, et laisser en fait la forêt et tout l'écosystème qui est à l'intérieur, tous les animaux, les végétaux, se développer le plus librement possible, sans intervention de l'homme pour gérer la forêt, comme le fait même l'ONF chez nous. Vous savez, l'ONF qui gère les forêts publiques, gère les forêts, c'est-à-dire font des coupes, etc. Là, le projet, c'est de relaisser en fait, la vie sauvage se développer. Alors, ce n'est pas un projet qui sous-entend que ce serait complètement fermé aux humains, c'est-à-dire qu'il y aurait un droit de passage, sur ces, on pourrait le visiter, si vous voulez. Par contre, il y a une charte qui va avec leur réserve de vie sauvage, et ça exclut très strictement toutes les formes de prélèvement. Vous n'avez pas le droit, quand vous passerez sur cette passerelle, de pêcher des poissons, de cueillir des fleurs. Voilà. Vous n'avez pas le droit de... Vous devez avoir vous pouvez y être, mais avec un usage qui soit le plus respectueux possible du libre développement de tout l'écosystème qui sera là. Et ils ont une règle aussi qui est très importante, c'est qu'ils ont tout un montage juridique qui garantira que cette parcelle ne pourra plus jamais être revendue. Il supprime justement le droit d'aliénation dont on parlait tout à l'heure. Ce droit, il se lie les mains pour l'avenir avec des actes juridiques qui font qu'ils ne pourront plus jamais le revendre et le remettre sur le marché. Alors ce que je trouve très intéressant dans ce genre de projet, si vous voulez, et repenser à la charte des forêts dont je vous parlais tout à l'heure, c'est qu'on est dans une logique... Alors, une chose que je dois rajouter, ce projet est soutenu par un philosophe français qui s'appelle Baptiste Morisot, connaissez peut-être, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Les diplomates, sur la façon dont nous pourrions cohabiter avec le loup. Il s'intéresse aux grands prédateurs, hein, les loups, les ours. Et il soutient ce projet, et il a écrit une tribune dans Le Monde pour soutenir cette initiative et appeler à ce qu'on donne de l'argent. Et il dit explicitement, cette initiative vise à faire de cette forêt un bien commun. Et alors ce que je trouve intéressant, si vous voulez, c'est que ce n'est pas tout à fait la même façon de concevoir les biens communs qu'on l'a traditionnellement, et ni la façon dont Elinor Ostrom présentait les choses. Pourquoi ? Là, si vous voulez, dans les communs d'Ostrom, il y a quand même toujours un droit de prélèvement qui est essentiel. Elle regarde toujours des communautés de pêcheurs qui pêchent du poisson, qui prélèvent du poisson comme une ressource. Elle regarde des forêts dans lesquelles les gens viennent prélever du bois. Elle regarde des pâturages, le principe même d'un pâturage, c'est que vous venez pour prélever de l'herbe. Dans ces communs-là, si ça c'est un commun, Vercors vie sauvage, le principe même, c'est qu'il n'y a pas de droit de prélèvement. Les humains se mettent d'accord entre eux pour qu'un certain endroit ne soit pas du tout soumis à prélèvement. Et de la même façon, vous voyez, le droit d'aliénation, il est neutralisé, en fait. Donc c'est une autre façon de faire fonctionner le faisceau de droit que je trouve assez intéressante, et notamment cette notion de libre développement. En fait, ce qu'elle sous-entend, c'est que ce montage confère aux non-humains, c'est-à-dire aux végétaux et aux animaux qui sont sur cette parcelle, un droit au libre développement. Je ne sais pas si vous voyez la différence, c'est-à-dire que dans les communs ostromiens, c'était toujours une question de se répartir entre humains des droits sur des non-humains, que sont des végétaux et des animaux. Dans ce montage-là, c'est des humains qui se mettent d'accord justement pour donner des droits à des non-humains, et des droits au libre développement, qui sont en fait des droits à la vie, tout simplement. Parce que pour cette parcelle-là, ça veut dire qu'elle aura un droit à un respect absolu de sa vie et de sa survie. Et ça change complètement de la logique aussi de de la Carta Foresta. La Carta Foresta, elle a été énoncée au nom du droit à la subsistance des humains. Ce que disait cet acte, c'était « les humains ont un droit absolu à la subsistance, à la survie, donc on doit leur garantir un droit de prélèvement dans les forêts ». Ici, c'est l'inverse, en fait. C'est-à-dire que ce qu'on dit, c'est que ces écosystèmes ont un droit absolu à la survie, et donc les humains doivent s'abstenir d'aller prélever dedans. Vous voyez la logique un petit peu différente qui commence à se dessiner. Et c'est ça qu'on appelle les droits de la nature, en fait, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est une nouvelle façon de concevoir le droit de l'environnement qui attribue des droits aux écosystèmes, qui peut en attribuer aux animaux, qui peut en attribuer aux végétaux, et qui leur attribue un droit à la subsistance en tant que tel, ce qui n'est pas normalement, si vous voulez, l'optique générale du droit. Le droit occidental, normalement, ne considère pas que les éléments non humains puissent être titulaires de droit. Ce sont des choses et ce sont des objets de droit. Nous, on est des humains, on a le droit d'avoir un respect de nos droits, hein, nos droits fondamentaux, mais toutes les choses environnantes, normalement, sont des objets de droit. Alors, il y a un droit de l'environnement hein, pour protéger certains éléments, mais pas avec une reconnaissance intrinsèque de droit à leur profit. Alors, je vous montre un autre exemple qui va encore plus loin, et qui, moi, m'a beaucoup fait réfléchir. Hein. C'est vraiment un exemple qui a marqué un tournant. C'est en 2017, vous avez la Nouvelle-Zélande, qui a choisi de reconnaître une rivière, qui s'appelle la rivière Whanganui, comme une entité vivante dotée de la personnalité morale. Donc ça veut dire qu'ils reconnaissent la rivière comme une personne. Ce qui, pour nous occidentaux, est très très perturbant, si vous voulez. C'est-à-dire, normalement, une rivière, c'est un élément géographique, si vous voulez, ça passe sur le territoire de collectivités territoriales qui, elles, ont la personnalité, hein, elles ont une personnalité morale, mais la rivière en tant que telle n'a jamais de personnalité. Là, ils vont plus loin, donc, ils attribuent à la rivière en tant que telle une personnalité morale, ce qui va devenir titulaire de droit. Et c'est... Alors pourquoi ils l'ont fait ? Parce que cette rivière, en fait, passe sur le territoire de population maori, qui considère que C'est un fleuve sacré chez eux. C'est un de leurs ancêtres. Voilà, ils considèrent que c'est un membre de la communauté. Et ils ont réussi à obtenir de l'État néo-zélandais qui traduise cette vision du monde en une loi qui fasse de cette entité une personne. Et ça, en fait, ça commence à se développer dans le monde. En Inde, vous avez le Gange et un de ses affluents qui ont failli avoir la personnalité juridique. En fait, il y a une cour de justice qui avait donné la personnalité juridique au Gange, notamment un droit à son bien-être qui aurait été reconnu. Le Gange, c'est un des fleuves les plus pollués au monde. Et donc le juge avait dit, voilà, face à cette urgence, on va attribuer la personnalité juridique au Gange. Et ça a été bloqué par la Cour suprême de l'Inde, qui a considéré que ce n'était pas possible. Mais vous avez une portion de la forêt amazonienne, qui est en Colombie, qui, elle, a reçu aussi par décision de justice la personnalité morale. C'est un recours assez beau qui a été porté par des enfants, en fait. C'est aussi une portion de l'Amazone qui est polluée, très polluée. Et des enfants ont demandé au juge en Colombie de se voir que cette portion de l'Amazone et la forêt qui est autour ait la personnalité morale, et ça a été accordé. Et l'autre exemple qu'on cite souvent, c'est, vous savez, en Bolivie et en Équateur, dans leur constitution, c'est la nature en tant que telle qui est désignée comme une personne, qu'ils appellent la Pachamama, la terre-mère, liée aussi à la vision cosmogonique très particulière des Indiens des Andes, et la terre-mère est considérée comme une personne ayant des droits, donc la nature chez eux a des droits, ce qui a des conséquences tout à fait pratiques, hein, notamment sur les recours en justice. C'est-à-dire que quand la nature a des droits, elle peut les actionner en justice par l'intermédiaire d'humains qui vont être habilités à faire des procès pour la défense des droits de la nature devant les tribunaux. Et là, c'est le cas aussi en Nouvelle-Zélande. Hein. Ça a des conséquences juridiques très très. C'est pas, si vous voulez, c'est pas juste de la philosophie ou de voilà du symbole. Hein. Ça a des conséquences très très profondes sur le régime de propriété du territoire et sur la manière dont les droits ensuite sont exercés en justice. Alors la question c'est, est-ce que cette vision des droits de la nature, est-ce que ça représente exactement le même combat que celui des communs? Depuis un certain temps, moi, je vois des chercheurs en particulier, hein, qui émettent des réserves sur la manière dont la théorie des communs a été formulée. Là, je vous en ai mis un qui s'appelle Jonathan Metzger, qui travaille sur les communs urbains. Mais alors lui, il est canadien, il travaille sur un champ assez particulier. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le phénomène des animaux qui reviennent dans les villes parce qu'ils sont chassés de leur habitat naturel, et qui sont obligés de revenir dans la ville pour trouver à manger. Les ours au Canada qui reviennent dans les villes, les loups qui reviennent dans la ville, etc. Les ratons laveurs qui peuvent envahir la ville au Canada. Et vous voyez, dans ses analyses, j'avais noté ce passage qui est assez intéressant, il dit « L'opérationnalisation des common pools resources, ça c'est le concept de commun dans la théorie d'Ostrom, l'opérationnalisation donc des common pools resources dans la théorie d'Ostrom sous la forme d'une gestion communautaire, c'est aussi l'utilisation humaine des ressources naturelles, les humains d'un côté, tout le reste de l'autre, une division ontologique entre les humains et les non-humains, les commoners et les communs, les agents et la structure, les extracteurs et la ressource, la culture et la nature, les sujets et les objets, les uns qui utilisent activement, les autres qui sont passivement utilisés. » Donc ce qu'il veut dire exactement là, ce qu'il veut dire, c'est que si vous dites qu'un commun, c'est une communauté qui utilise une ressource, vous réactivez de très anciennes distinctions de la culture occidentale qui nous disent que les éléments naturels sont des ressources, donc des éléments dans lesquels on peut puiser, que l'on peut utiliser, et en fait, vous réactivez finalement tout l'arrière-plan qui a permis la surexploitation des ressources. Et qui a permis cette surexploitation de la nature? C'est parce que les occidentaux et les anthropologues nous montrent que nous sommes quand même des exceptions dans toutes les autres cultures humaines. C'est parce que les occidentaux ont eu cette façon de séparer les ordres de réalité et de dire qu'il y aura une sphère des humains et au-delà il y aura une sphère des non-humains qu'on va qualifier comme étant des ressources. C'est là qu'on a enclenché, si vous voulez, le mouvement qui nous a conduit au désastre écologique dans lequel nous sommes, en fait. Et beaucoup, les anthropologues montrent, notamment vous en avez un qui s'appelle Philippe Descola, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, montrent qu'en fait, les autres cultures du monde en général, n'ont pas cette rupture ontologique. Ontologique, ça veut dire rupture dans l'être, dans la conception dont les choses sont. Beaucoup d'autres, toutes les autres cultures n'ont pas cette distinction, en fait, cette rupture entre humain et non-humain. Donc, si vous voulez, le point de vigilance qu'on doit tous avoir quand on parle des communs, c'est de se rendre compte que manier des concepts de communauté et de ressources en mettant les ressources à l'extérieur de la communauté, ça a un vrai impact, et c'est une chose sur laquelle on devrait profondément travailler. Ce débat, en fait, il est beaucoup plus profond actuellement dans le champ des sciences humaines et sociales. Vous avez tout un débat. Là, je vous ai mis une affiche, c'est un festival qui a eu lieu à Marseille il y a 15 jours, ou la semaine dernière même, qui s'appelle « En finir avec la nature ». Bon, c'est un jeu de mots, hein. Ça joue sur l'idée que oui, on est en train d'en finir avec la nature. Hein. Visiblement, les derniers rapports ont montré qu'il y avait un effondrement des espèces, 80% des insectes qui sont en train de disparaître. On sait que voilà, la biodiversité est très très gravement menacée. Donc d'en finir avec la nature au sens propre. Hein. Mais ce que pointait surtout cet événement, c'est toute une remise en question du champ des sciences humaines et sociales sur le concept de nature. C'est-à-dire justement pour revenir sur cette séparation occidentale entre la nature et la culture. C'est des choses dont Philippe Descola a beaucoup travaillé là-dessus, et c'est aussi quelque chose qu'a beaucoup travaillé Bruno Latour, sociologue et anthropologue, dont je vais parler à plusieurs reprises par la suite. La distinction entre nature et culture, c'est ce que dénonce, si vous voulez, aussi Jonathan Metzger. Et c'est quelque chose qui court en filigrane dans la théorie des communs. On le retrouve à plein de niveaux, notamment dans la théorie des communs. Vous savez, il y a une grande distinction entre les communs soi-disant naturels et les communs de la connaissance. C'est deux branches différentes. Moi, jusqu'à présent, je me suis beaucoup d'ailleurs intéressé aux communs de la connaissance, aux communs numériques. Je suis bibliothécaire de profession, mon univers, c'était la connaissance. Mais c'était conçu comme une sphère séparée, si vous voulez, des communs naturels qui sont autre chose. Et cette coupure, elle est vraie, assez forte hein, dans le monde des communs. D'ailleurs, les militants des deux sphères se croisent assez rarement. C'est pas si simple de rassembler des gens qui travaillent sur les communs de la nature et sur les communs numériques, par exemple. Et c'est pas pour rien, hein, c'est une rupture qui est assez profonde. Vous avez quelqu'un comme Bruno Latour, justement, qui propose de revoir très en profondeur les choses, et qui propose de substituer à cette notion de nature d'autres notions. Lui, il propose par exemple une notion qu'il appelle Gaïa, du nom de l'ancienne divinité qui représentait la nature. Pour lui, Gaïa, c'est une conception qui ne sépare plus les phénomènes sociaux des phénomènes dits naturels. Et il prend l'exemple de ce que certains appellent le passage à l'anthropocène, c'est-à-dire cette soi-disant nouvelle ère et géologique, qui est parfois contestée hein, par les scientifiques, dans laquelle en fait l'homme est devenu une force géologique. Il est capable de modifier drastiquement les conditions de vie sur Terre, au point d'ailleurs de les faire disparaître à terme. Et donc en fait, on voit que la distinction entre la sphère sociale et la sphère dite naturelle est en train de s'effondrer. En fait. Lui, il dit par exemple, le carbone est un acteur politique. C'est devenu même peut-être l'acteur politique majeur du XXIe siècle. Il dit que c'est un acteur politique au sens propre du terme. Il agit, et les humains, à l'inverse, sont devenus une force naturelle parce qu'ils ont la capacité de modifier drastiquement nos conditions. Et ce qu'il appelle Gaïa, en fait, c'est ce nouvel ensemble socio-naturel et le réseau de relations qui existe entre ces deux sphères qui les maintient dans un état d'interdépendance constante. Alors, si on revient à Elinor Ostrom, parce que Elinor Ostrom est beaucoup citée, parfois de manière un peu superficielle, et bon, elle a beaucoup écrit, on lit souvent toujours le même texte d'elle, qui est Governing the Commons, son grand livre, mais elle n'est pas facile du tout d'accès, et quand on se plonge dans ce qu'elle raconte, on se rend compte qu'il y a des petites nuances par rapport à la Vulgate des communs, par exemple. Elinor Ostrom ne dit jamais dans ses livres qu'un commun, c'est une ressource gérée par une communauté avec des règles. Jamais vous trouverez ça dans... C'est pas comme ça qu'elle formulait les choses. Elle fonctionnait beaucoup par schémas qui représentent des modèles qui lui servaient en fait à... Elle, c'était la base de son travail, c'était l'observation de terrain. Et elle avait besoin de modèles en fait pour cadrer ses observations. Et elle utilisait surtout ce modèle qui s'appelle cadre d'analyse institutionnelle. Et voyez, le fameux triptyque, là, la triade, elle vient de la colonne de gauche. Elle dit, dans les situations que j'observe, il y a toujours des variables exogènes qui vont être les conditions matérielles et biophysiques, l'environnement, les caractéristiques de la communauté et les règles mises en place. En fait, c'est ça, l'origine du triptyque, il est dans ce schéma-là, en fait. Ça, c'est ce qu'on a appelé les éléments de définition. Pour elle, c'était les variables exogènes. Et les synergies entre ces trois éléments créent ce qu'elle appelle une arène d'action dans laquelle des participants vont être dans une situation, ils vont interagir, et ce qu'ils vont produire, en fait, c'est une production institutionnelle, parce qu'en fait, ils vont mettre en place des modes de gouvernance, et la dynamique du commun, vous voyez, ça fait une boucle de rétroaction. Cette gouvernance, elle change ensuite, soit les conditions matérielles, soit les caractéristiques de la communauté, soit elle fait évoluer les règles, et on repart pour un tour, ça recrée une arène d'action, etc. Ça, c'était son modèle de base. Moi, ce qui m'a toujours frappé, ce qui me frappe beaucoup quand vous lisez Ostrom, là on le voit sur un autre schéma, c'est que pour elle, un acteur, c'est toujours un humain. Ce qui agit dans ces modèles, c'est des humains. Ce qu'elle observe, c'est la manière dont les humains négocient entre eux l'adoption de nouvelles règles de gestion. Ce qui n'est pas humain, et d'ailleurs on le voit sur ce schéma, c'est assez éclatant, vous voyez, il y a une sorte de pointillé qui délimite l'arène d'action, là justement. Ce qui n'est pas humain, c'est des variables exogènes. Donc tout l'environnement, tous les éléments naturels chez elle, forment un peu comme une sorte de toile de fond, comme une sorte de décor de théâtre. Vous avez une scène avec des humains qui parlent entre eux et qui agissent, et le reste, ce n'est pas un acteur, c'est juste un environnement. Voyez. Elle est très imprégnée encore de cette coupure occidentale entre nature et culture. Bien qu'elle ait fait d'énormes apports à la théorie, voilà, elle a fait notamment à l'économie, elle a complètement chamboulé la manière dont l'économie appréhendait les questions environnementales, mais pas au point de remettre en cause cette séparation, vous voyez, entre des humains qui agissent et des non-humains qui sont réduits à l'état de variables exogènes. À la fin de sa vie, elle s'est rendue compte que ça posait problème et elle a essayé de changer son modèle. Et alors là, à partir de là, ces modèles deviennent extrêmement complexes parce qu'elle essaie justement de faire rentrer plus de choses dans le champ des acteurs et elle crée un nouveau système qu'elle appelle les systèmes socio-économiques où justement, un peu à la manière de Bruno Latour, elle essaye de voir les interactions entre les éléments naturels et les éléments sociaux. Et ça l'a conduit, vous voyez, à faire des sortes de très grandes listes dans laquelle elle identifie des paramètres qui lui servent pour ses observations, et elle essaie de, voilà, de croiser, là, elle rentre dans une logique un peu différente. Et si vous voyez dans la catégorie acteur, qui est dans la colonne là, de droite, c'est assez intéressant, vous voyez, parce que pour elle, des acteurs, par exemple, le lieu, c'est un acteur. Je trouve ça assez intéressant, parce que considérer le lieu en lui-même comme un acteur, là, ça commence à sortir de cette vision traditionnelle. Les normes, les règles deviennent un acteur. Les connaissances deviennent des acteurs. Ça, c'est, je vous en parlerai juste un petit peu après, ça ressemble beaucoup à ce que fait aujourd'hui Bruno Latour en sociologie, par exemple. Où il a des modèles de description sociologique dans lesquels il va considérer l'action des humains, mais aussi l'action de ce qu'il appelle des non-humains, qui peuvent être tout à fait un lieu. Voilà. Si Bruno Latour décrivait sociologie de conférence, il décrirait le lieu en lui-même comme un acteur de cette conférence, si vous voulez, pas comme un environnement de cette conférence, comme quelque chose qui agit sur nous en ce moment et qui. Voilà. Alors, si vous voulez, là où je pense qu'il y a un effort de plus à faire par rapport à ce que Elinor Ostrom nous a proposé, c'est justement à remettre en cause ses limites et à réintégrer ce qu'on appellerait les non-humains, comme des acteurs au sens propre dans les communs. Elinor Ostrom, c'est assez troublant, elle cite beaucoup Thomas Hobbes dans ses livres. Vous voyez, Hobbes, c'est l'auteur du Léviathan, celui qui a dit « l'homme est un loup pour l'homme ». Et elle le cite souvent pour le critiquer, parce que Hobbes, lui, c'est typiquement celui qui croit que l'homme est incapable de s'entendre par lui-même et qu'il faut abandonner notre puissance d'agir au profit de l'État. Voilà, Hobbes, sa grande figure, c'est ça, en gros. Hein, c'est l'homme est un loup pour l'homme, donc abandonnons notre puissance d'agir au profit de l'État, et c'est l'État qui garantira notre survie. Et Elinor Ostrom, elle le critique beaucoup parce que elle pense que les communautés sont capables de s'auto-gouverner et de s'auto-réguler. Donc elle n'est pas du tout hobbesienne. Mais ils ont quand même un gros point commun, c'est que chez Hobbes, en fait, tout l'objectif pour les humains, c'est de sortir de l'état de nature. La nature est quelque chose de profondément violent et il n'y a pas de vie sociale possible. Donc les hommes doivent se réunir entre eux, définir des règles, et cette action de définition des règles, ça les fait sortir de la nature. Et c'est comme ça qu'ils s'émancipent et qu'ils acquièrent leur statut d'humain. Ostrom, elle est quand même dans cette vision, dans une certaine mesure. Quand elle décrit ces modèles, voilà, on est encore dans des humains qui parlent entre eux pour gouverner la nature. C'est un gouvernement des hommes entre eux et un gouvernement sur la nature. Son livre « Governing the Commons », c'est une forme de gouvernement de la nature. Et j'avais beaucoup aimé cette phrase qu'elle dit dans l'introduction. Elle dit « Moi, j'observe des choses qui sont aussi complexes que des organismes vivants, mais mon organisme, c'est un type de situation humaine. » C'est très révélateur des ambiguïtés qu'elle a parfois, parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose dans sa façon de présenter les choses qui ne va pas, mais elle retombe sur l'idée que c'est finalement une situation humaine, vous voyez, purement humaine. Alors, vous avez des gens aujourd'hui qui essaient de penser les choses autrement. Donc, un des plus importants, c'est Fischer, qui est anthropologue, qui a écrit ce livre très important qui s'appelle « Par-delà nature et culture ». Et vous voyez, là c'était une interview dont j'ai repris des extraits, il nous dit, voilà, la philosophie des Lumières et les sciences sociales sont nées d'un travail d'épuration qui a consisté à exclure les non-humains de la vie commune pour en abstraire la société, à savoir l'assemblée des humains produisant les conventions qui les régissent et inventant les concepts appropriés pour ce faire. C'est typiquement ce que fait Hobbes, par exemple. Face à ça, lui, il dit, il faut entièrement revoir notre façon dont on fait des sciences sociales, en s'appuyant sur un principe qu'il appelle la symétrie. Le principe de symétrie, ça veut dire, ça consiste à introduire les non-humains sur la scène de la vie sociale autrement que comme des ressources ou un entourage extérieur. Faire de l'anthropologie symétrique, cela ne signifie pas expliquer la vie des humains par l'influence des non-humains, ça c'est tout à fait ce que font les schémas d'Ostrom, par exemple, mais rendre compte de la composition d'un monde où les uns comme les autres prennent part en tant qu'acteurs, actant, dirait Latour, avec leurs propriétés, leurs modes d'action, et constituent donc des objets d'intérêt égal pour les sciences sociales. Alors, ce principe de symétrie, c'est quelque chose d'assez important, et j'ai essayé de vous montrer, quand je vais arriver à ma conclusion, qu'à mon avis, on peut reformuler la théorie à partir de cette idée de symétrie. Les trois éléments, la communauté, règle, et ressources, on doit les symétriser, si vous voulez, les reformuler dans une vision symétrique. C'est quelque chose que manie depuis longtemps Bruno Latour, justement, dans un outil qu'il a appelé la théorie de l'acteur réseau, tout un courant avec Michel Calon, qu'il a initié, qu'on appelle sociologie de la traduction ou sociologie des objets. C'est une façon de faire de la sociologie sans rejeter les non-humains à l'extérieur de la scène d'action. Et donc c'est une méthode de description des situations. Ils ont commencé à le faire, enfin surtout Latour, pour étudier le travail des scientifiques. Il réintroduisait les éléments non-humains comme des acteurs dans le travail des scientifiques. Et c'est une méthode qu'il a étendue maintenant très largement. Et il propose d'en faire un principe de refonte complet de l'anthropologie, dans ce livre-là notamment, « Nous n'avons jamais été modernes ». Il en fait un programme global de refonte des sciences humaines et sociales. Alors je vous donne juste un exemple de ce que ça... J'ai essayé de prendre un exemple qui fait un peu couleur locale. Voilà, je suis passé à Saint-Brieuc en train en arrivant. Il y a un article de Michel Calon, donc, qui travaille avec Bruno Latour, de 1986, qui est vraiment excellent, je vous invite à le lire, qui s'appelle « La domestication des coquilles Saint-Jacques et des marins-pêcheurs de la baie de Saint-Brieuc » éléments pour une sociologie de la traduction. C'est une étude qui se base sur un cas des années 70 où vous aviez eu une situation de surpêche des coquilles Saint-Jacques dans la baie de Saint-Brieuc, au point que la population était menacée de disparaître. Typiquement d'ailleurs un cas que Elinor Ostrom aurait pu étudier et qui l'aurait intéressé, parce que c'est un cas où la communauté des pêcheurs aurait dû chercher à s'auto-organiser pour limiter leurs prélèvements et permettre à la ressource de durer. Là, ce qui se passe, c'est que des chercheurs arrivent avec l'idée qu'ils ont importé une méthode du Japon pour élever en fait les coquilles Saint-Jacques, c'est-à-dire en faire des élevages, implanter des larves de coquilles Saint-Jacques en fait sur des poteaux en bois et permettre comme ça d'aider la ressource à se renouveler. Et donc ces scientifiques montent un bassin expérimental dans lequel ils testent cette méthode japonaise avec une énorme inconnue, c'est de savoir est-ce que les variétés de coquilles Saint-Jacques bretonnes vont répondre de la même manière que les variétés japonaises. Et alors, si vous voulez, cet article il est vraiment fascinant, parce que Calon s'applique une méthode de symétrie, il s'y tient d'un bout à l'autre, parce que vous avez trois acteurs au sens propre du terme, les coquilles Saint-Jacques, les marins-pêcheurs et les scientifiques. Et Calon traite les coquilles Saint-Jacques comme un acteur à part entière. Ça n'est jamais une ressource, ça n'est jamais un objet, c'est un acteur de la situation. Il dit, en fait, les scientifiques, ce qu'ils font, c'est qu'ils négocient avec les coquilles Saint-Jacques une méthode d'implantation, et vous avez toute une sorte d'impression syndicale qui ressort de l'article. Voilà, les coquilles Saint-Jacques sont une partie prenante de la situation, au même titre que les marins pêcheurs, qui ont un syndicat eux aussi. Les trois éléments discutent, et ça se finit assez mal, parce que finalement la méthode ne marche pas, marche pas très bien, et finalement les marins pêcheurs, un jour, dans le bassin expérimental des chercheurs, et saccagent tout le travail qu'ils avaient mis en place. Voilà. Donc échec de la négociation. Mais ce qui est vraiment frappant dans cet article, c'est l'application de la méthode symétrique et le fait qu'à tout moment, les coquilles Saint-Jacques sont traitées comme un acteur à part entière. Ostrom n'aurait jamais écrit les choses comme ça, si vous voulez. Elle aurait dit, voilà, les coquilles Saint-Jacques, c'est la ressource. Les humains qui sont en train de négocier des règles, c'est les marins pêcheurs. Ils sont assistés par des chercheurs qui leur apportent des connaissances. Voilà. Elle a fait d'ailleurs des études sur la pêche au homard, assez fascinantes, hein, dans le Maine, qui sont très proches de ça, mais elle ne le décrit pas de la même façon. Alors vous avez des gens qui reprennent la question des communs et qui essaient de la croiser avec tout l'apport de Latour et toute cette sociologie des objets, etc. Notamment une qui est plus intéressante, c'est Anna Tsing, qui a écrit ce livre qui s'appelle « Le champignon de la fin du monde ». Survivre dans les ruines du capitalisme, où elle s'intéresse à un champignon particulier qui s'appelle le Matsutake, qui est un champignon japonais là aussi, une sorte de truffe japonaise que les Japonais raffolent en fait de ce champignon. C'est quelque chose qu'on offre en cadeau chez eux. Et c'est un champignon qui, comme la truffe, si vous voulez, vit dans des conditions très précises. Et les Japonais ont détruit en fait quasiment tous les écosystèmes au Japon dans lesquels ce champignon poussait. Et donc ils sont contraints de les importer, parfois de très loin. Ils en importent de Chine, ils en importent aussi des États-Unis. Et Anna Tsing, elle étudie en fait les cueilleurs de ces champignons, et elle étudie toute la chaîne mondiale d'approvisionnement qui amène ces champignons de tous ces endroits du monde vers le Japon, et quel est le processus qui retransforme ces champignons en marchandises. Alors c'est un livre qui est très intéressant parce qu'elle elle s'intéresse à la question des communs, mais elle reformule la question sous la forme de ce qu'elle appelle des communs latents. Et pour elle, un commun latent, ce n'est pas tout à fait la même chose que ce que Kostrom désignait. Pour elle, un commun latent, c'est latent en fait chez elle parce que c'est toujours caché. C'est quelque chose qu'on n'arrive jamais à voir d'emblée. Et elle explique pourquoi. Hein. C'est parce qu'avec notre grille occidentale, il y a des choses qui nous sont cachées, en fait, qui nous sont masquées, parce qu'on considère notre environnement comme des objets. Et elle dit, ce qui est en fait un commun latent, c'est un lien d'interdépendance fondamentale entre humains et non-humains, qui fait que l'un et l'autre ne peuvent pas vivre sans eux, et qu'il y a une interdépendance voilà, qui se crée. Et elle décrit notamment ces cueilleurs de champignons comme des humains qui sont dans une relation voilà, d'interdépendance vitale avec ces champignons, et qui forme ce qu'elle appelle un commun latent. Alors elle a reformulé, elle a essayé de mettre des sortes de principes pour décrire ce que sont des communs latents. Elle dit, les communs latents ne sont pas des enclaves exclusivement humaines, Donc là, elle pointe le fait que oui, c'est aussi des choses dans lesquelles il y a des non-humains et qui sont des non-humains qui sont des acteurs, qui ont une puissance d'agir, une agentivité propre, comme les humains. Les communs latins ne sont pas bons pour tous. Elle dit un commun, c'est pas forcément quelque chose de bénéfique pour tout le monde. Ça peut avoir des effets négatifs à d'autres endroits. Voilà, elle essaie de sortir d'une vision un peu angélique des communs. Elle dit les communs latins ne s'institutionnalisent pas aisément. Ça, c'est une très grosse différence par rapport à Ostrom. Toute la théorie d'Ostrom, c'est sur comment les communs deviennent des institutions qui fixent des règles, etc. Pour Anatine, les communs latents, c'est une relation qui est... Ces liens d'interdépendance, ils ont beaucoup de mal à se traduire dans des institutions. C'est une grosse différence avec... Et elle termine en disant « Les communs latents ne peuvent pas nous racheter ». Anatine, elle est assez dans cette, vous savez, dans cette logique de l'effondrement, de dire voilà, on atteint des points de non-retour et l'effondrement est très probable. Et elle explique que les communs ne vont pas nous éviter cette catastrophe. Par contre, ils peuvent nous permettre de continuer à vivre dans les ruines que cette catastrophe va provoquer. C'est à peu près sa logique. Voyez. Donc c'est un livre qui est vraiment extrêmement intéressant. Je vous conseille de le lire. C'est un livre qui se lit, qui peut se lire même si vous n'êtes pas intéressé. Ni par l'économie, ni par les questions d'anthropologie, ça peut se lire comme un roman, c'est vraiment une lecture que moi j'ai trouvée vraiment importante. Alors ça vous tout ça paraît peut-être un peu abstrait. Alors comment pour essayer de l'illustrer, donc j'ai essayé de prendre un autre exemple un peu local. Cet été, j'ai été dans les marais salants de Guérande. Voilà, parce que j'étais en vacances dans le coin, mais aussi parce que ça faisait longtemps que j'entendais beaucoup de gens dire que les marais salants de Guérande, ça constituait sans doute un exemple de commun existant. Et du coup, j'y suis allé un peu avec une arrière-pensée pour voir comment les choses se passaient, et voilà, essayer de sentir un peu les choses dans cet endroit. Et moi, ce que je trouve, enfin, je ne sais pas si vous avez déjà été dans les marais salants de Guérande, mais moi, ce que je trouve très fascinant, c'est de voir l'interdépendance très profonde qu'il y a dans cet endroit entre l'activité des hommes et le paysage autour d'eux, et la manière dont ils s'engendrent les uns les autres. C'est-à-dire que c'est typiquement un endroit où vous ne pouvez pas réduire le sel seulement à une ressource, si vous voulez. C'est pas comme si vous aviez des humains qui étaient en train d'extraire une ressource d'un endroit. Ce qui se passe, en fait, c'est que des hommes produisent du sel, et le sel produit les hommes qui produisent du sel, etc. Il y a une sorte d'interdépendance très très forte entre les modes de vie des paludiers qui travaillent sur la zone, le paysage qu'ils produisent, tout l'écosystème qui est autour d'eux, et in fine ce sel, qui est comme voilà, une sorte de cristallisation. Moi j'ai eu l'impression que voilà, le sel qui cristallise, c'est comme l'image du commun en fait. C'est ça en fait, c'est comme cette cristallisation de tous ces liens qui unissent ces humains et ces non-humains. Et c'est ça qui crée ce que sûrement Anatine appelle un commun latent, vous voyez. Et je trouve que c'est très frappant. Et aussi, dans un autre ouvrage, il oppose ce qu'il appelle les systèmes de ressources et les systèmes d'engendrement, ou systèmes de production et systèmes d'engendrement. Il vous dit un système de ressources ou un système de production, c'est la vision de l'économie. Vous allez avoir des humains qui produisent une ressource. Dans un système d'engendrement, ce qu'on appelle ressource produit les humains, et les humains produisent la ressource, et ils se reproduisent mutuellement, en fait. Il n'y a pas d'extraction qui est faite. Donc ça, je trouvais que c'était vraiment... Dans les marais de salants de Guérande, c'est pas très loin, je trouve qu'on touche du doigt ce qui ressemble sans doute à ce que Anatine appelle un commun latent. Vous avez d'autres personnes qui essayent de formuler les choses un peu différemment, et qui commence à parler de communs plus qu'humains, more than human commons, pour essayer de sortir de cette vision des hommes entre eux. Là, je vous ai mis un autre chercheur qui s'appelle Patrick Bresnian, qui est irlandais, et qui travaille sur la pêche au homard. Voilà. Et qui est assez critique vis-à-vis du modèle mis en place par Ostrom. Et vous voyez, lui, il a une formule qui est très très belle, il dit « La pêche au homard, c'est des humains et des homards qui partagent des mondes. » Les homards ont leur monde, les pêcheurs ont leur monde. Ce qu'ils font, c'est qu'ils partagent un monde. Et ils sont, en fait, ce que Ostrom a appelé le mécanisme instituant, lui, il appelle ça un processus de négociation collective de limites et de capacités. C'est-à-dire que les humains propose aux homards une certaine forme de mode, si vous voulez. Les homards réagissent. Et tout ça, ça forme ce qu'il appelle une négociation collective, ce qui nous ramène sur le terrain syndical, que je trouve assez intéressant. Une sorte de négociation qui est faite avec ces homards, qui ne sont pas juste une ressource, qui sont des acteurs à part entière de la situation. Vous avez des gens qui vont encore plus loin et qui vous disent, il va falloir, vu les périls qu'on est en train d'affronter au niveau écologique, il faudrait supprimer complètement la notion de ressource de la théorie des communs, s'en débarrasser. Et ils essaient de nous faire passer ce cap en introduisant une notion que je trouve là aussi extrêmement intéressante, qui est celle des communs négatifs. En France, vous avez une personne qui s'appelle Alexandre Monin, qui est un jeune philosophe qui développe cette idée et que je trouve vraiment intéressante. Il dit jusqu'à présent, on a toujours vu les communs comme des choses utiles. Et les gens veulent se les approprier. Voilà. Une forêt, c'est utile, c'est positif, on l'utilise. Des poissons, c'est utile, on va les utiliser, donc les gens veulent se les approprier. Lui, ce qu'il dit, à l'heure de l'Anthropocène, et vu les ruines que le capitalisme est en train de semer partout sur Terre, la vraie question, c'est pas de réguler l'appropriation, c'est de faire en sorte de s'occuper de ce dont personne ne voudra s'occuper. Et il prend l'exemple des centrales nucléaires désaffectées. Il dit, les vrais communs du XXIe siècle, c'est pas seulement les poissons qui vont rester et les forêts qui vont rester, c'est qui va s'occuper des centrales désaffectées? Qui va s'occuper des déchets nucléaires? Et il dit, voilà, autour de ces choses que personne ne voudra s'approprier, parce que c'est tellement négatif que voilà, tout le monde va essayer de s'en débarrasser, c'est exactement ce qu'on fait avec nos déchets, eh bien, c'est autour de ça qu'il faut créer les communs du XXIe siècle. Et il appelle à créer des communs, pas sur des ressources, mais sur des choses qui ne peuvent pas être des ressources ou qui ne doivent plus l'être. Ça, c'est un saut mental que je trouve extrêmement intéressant. Il dit aussi, par exemple, c'est le cas du pétrole. Le pétrole, aujourd'hui, ça devrait être vu comme un commun négatif, pas comme une ressource, mais justement, ce ne vont plus faire une ressource. Mais ça, ça nécessite aussi une gouvernance. Ça nécessite aussi de mettre en place des règles. Et ça nécessiterait aussi de faire communauté autour de l'idée que le pétrole ne doit plus être une ressource. Je vous donne un autre exemple que je trouve très frappant. Pour moi, les véganes sont tout à fait des communautés de communs négatifs. C'est-à-dire, ce sont des gens qui, collectivement, décident de ne plus faire des animaux une ressource et de ne plus les exploiter sous aucune forme. Les gens qui font du zéro déchet jusqu'au bout sont aussi dans cette optique. C'est-à-dire, ils refusent de produire des déchets parce qu'ils rejettent même l'idée qu'on doit tout recycler. Il faut, parce qu'on peut considérer les déchets comme une ressource, c'est le principe même de l'économie circulaire. Mais quand on va jusqu'au bout de la démarche de zéro déchet, on s'interdit de produire des déchets, parce que même le recyclage est encore un problème, si vous voulez. Donc vous voyez, et tout ça, ça implique de faire communauté, de partager des connaissances, de partager des pratiques, et puis de partager des valeurs ensemble. Les communautés zéro déchet ou vegan, elles fédèrent des gens autour de valeurs. Donc ça, la notion de commun négatif, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'assez fort. Alors je vais terminer. Pour revenir sur cette question des droits de la nature, parce que là, moi, j'ai une grosse nuance avec Anna Tsing. Je pense qu'elle a tort de dire que ces sujets ne sont institutionnels. C'est-à-dire que pour moi, un commun latent, ça pose quand même une question d'institutionnalisation. Moi, je ne vois pas d'obstacle à ce qu'on essaie d'instituer un commun latent. Et je pense que c'est même l'enjeu fondamental, c'est de trouver des formes institutionnelles pour aussi nous donner des formes de gouvernance dans ces communs latents. Vous avez des gens, bon, je vais passer là-dessus, je n'aurai pas le temps, comme cette juriste qui s'appelle Valérie Cabanne, qui développe l'idée des droits de la nature en France. C'est elle qui est derrière l'action, vous savez, l'affaire du siècle, où tout un ensemble de personnes sont groupées pour attaquer le gouvernement pour inaction face à l'urgence climatique, au nom des droits de la nature. Elle développe aussi l'idée qu'il faut mettre en place un crime d'écocide pour les atteintes à l'environnement. Je vais revenir sur l'exemple de la rivière Whanganui, parce que je trouve qu'il est très intéressant sur cette question institutionnelle. Vu de chez nous, ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande est très bizarre, parce que donner des droits à une rivière, c'est vraiment complètement en dehors de la tradition occidentale. Chez nous, c'est les humains qui sont des personnes, qui ont des droits. Les humains sont des choses, qui sont des objets de droit, pas des sujets de droit, etc. Mais quand on regarde en détail ce qu'ont fait les Maoris, ce qu'ont proposé les Maoris, on se rend compte que c'est beaucoup plus subtil que ça, en fait. En fait, ce n'est pas la rivière qui a obtenu des droits, c'est une entité qui s'appelle Tehawatupua dans leur langage. Et cette entité, elle symbolise l'inséparabilité entre les éléments qui forment la rivière, tous les éléments biophysiques, et les communautés d'humains qui sont autour, à savoir deux tribus maoris. Donc ce qui a reçu des droits, ce n'est pas la rivière au sens de l'eau qui coule, c'est une entité abstraite qui symbolise le lien d'inséparabilité entre ces tribus et la rivière. Ce qu'ils disent, en gros, c'est que si vous supprimez la rivière, vous nous détruisez, et si vous nous détruisez, vous détruirez aussi la rivière, parce que c'est nous qui avons un droit légitime à garder cette rivière. Et donc la traduction de ça, c'est qu'ils ont créé un mécanisme institutionnel où vous allez avoir justement l'institution de gardien de la rivière, et en fait il y en a deux. Il y a un représentant élu des communautés maoris, qui va être gardien de la rivière, et un représentant de l'État. Et ils vont former en fait une institution qui sera l'institution chargée de protéger les intérêts de la rivière. Donc vous voyez, en fait, c'est là où j'ai vraiment une grosse nuance avec Anat Singh, c'est que je pense que c'est... Et c'est là, par contre, je rejoins complètement Ostrom, ces enjeux-là sont des enjeux institutionnels. La question, c'est de savoir... Parce que pour nous donner des moyens d'agir, il faudra bien que ça se traduise par des institutions, si vous voulez. Les humains n'agissent qu'à travers des institutions. Et donc, du coup, là, ce qui est intéressant dans ce modèle-là, c'est l'inventivité institutionnelle qui s'est manifestée dans ce dispositif. Je vous montre juste un autre exemple qui va vous montrer que la question des communs, elle est finalement pas si loin de ça. À Naples, en Italie, il y a eu tout un mouvement autour de la gestion de l'eau qui s'est fait au nom de la défense des biens communs, qui est très important. En Italie, les communs, c'est quelque chose de très, beaucoup plus important qu'en France. Et à Naples, en fait, la ville de Naples a remunicipalisé la gestion de l'eau, et elle l'a fait à travers une institution particulière qui s'appelle Aqua Bene Comune, ou bien commun, qui n'est pas une régie municipale de l'eau classique. C'est-à-dire c'est un établissement qui est entre le public et le privé, et qui associe, en plus de la municipalité, tout un ensemble de parties prenantes, notamment des associations, à la base, hein, parce que ça a changé depuis. Mais l'idée, c'était d'associer toutes les parties à un intérêt autour de l'eau. Et donc, ils ont créé ce que j'appellerais une sorte de presque un parlement de l'eau, si vous voulez, local, où on parle de ces questions. La nuance avec ce qui s'est fait au niveau de la rivière Whanganui, n'est pas si éloigné, si vous voulez. Les Italiens ont donné un statut à l'eau. La seule chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont pas représenté l'eau en tant qu'acteur, en tant que tel. Il n'y a personne qui représente l'intérêt de l'eau en tant que tel. Mais on n'est pas si loin avec ces dispositifs qui se sont mis en place pour la défense des communs de faire ce saut vers les droits de la nature. Vous avez quelqu'un comme Bruno Latour qui dit, lui, en fait, si on veut changer nos systèmes politiques pour affronter réellement les questions climatiques et environnementales, il nous faudrait créer ce qu'il appelle, lui, un parlement des choses, c'est-à-dire en plus de l'Assemblée nationale, qui représente les humains, il devrait y avoir un parlement des choses avec des représentants qui représenteraient les intérêts des non-humains. Un représentant des forêts, un représentant de l'air, un représentant... de l'eau, etc. Et ça devrait être un corps politique en tant que tel. Je vous l'ai dit, ça aussi, dans l'évolution des pays des Andes, en Bolivie, en Équateur, ils ont trouvé une autre solution. Ils ont créé la nature comme entité de droit. Et le mécanisme institutionnel, là, c'est que chacun, à tout moment, peut devenir le représentant de la nature, parce qu'ils se sont donné des droits d'action en justice, comme ça. C'est-à-dire que vous agissez en justice pour dénoncer une atteinte à la nature, et vous êtes à ce moment-là le représentant humain de la nature qui a un titre légal à agir devant les tribunaux. Autre montage institutionnel possible. Parce que les choses ne sont pas simples, vous avez des gens, par contre, qui sont dubitatifs vis-à-vis de ça, qui sont complètement dans cette idée des droits de la nature, mais qui se demandent si donner la personnalité juridique est une vraie solution. Notamment parce qu'ils font remarquer que tout dépend de qui va parler au nom de la nature. Qui va représenter l'eau dans le Parlement des choses de la Tour? Un scientifique, par exemple? Quelqu'un d'autre? Un associatif? La question politique, elle ne va pas être évacuée, elle sera même peut-être gravement même compliquée si vous instituez des représentants. Pour les Whanganui, ils vont représenter, ils vont élire quelqu'un qui va représenter les intérêts de la rivière. Et ce ne sera jamais qu'un humain qui parlera au nom de la rivière. Donc le mécanisme de représentation qu'induit tout ça n'est pas non plus une panacée. Et ça, il doit quand même y avoir une vigilance vis-à-vis de tout ça. Alors je vais terminer. C'est ma dernière slide. Comment on pourrait faire pour tirer la leçon de tout ça et reformuler la théorie d'Ostrom sur d'autres bases, et notamment dans un sens symétrique? Moi, la proposition que je fais, c'est on se débarrasse de la notion de ressource. La notion de ressource est trop toxique en elle-même, elle véhicule un rapport qui est trop unilatéral vis-à-vis des non-humains, elle les chosifie, elle les transforme en instruments, et tant qu'elle est dans le paysage, on ne peut pas changer réellement notre vision des choses. Les non-humains qui étaient des ressources dans la théorie d'Ostrom, on les intègre dans la communauté comme des membres. On n'est pas en train de gérer une forêt, on est dans une relation avec une forêt, et les arbres, etc., sont des membres d'une communauté. Et il y a des gens qui proposent un concept qu'ils appellent la communauté biotique, communauté de la vie, dans laquelle les non-humains doivent être des membres au sens propre du terme. Donc, dans l'élément communauté, on l'élargit, et ce qui était avant des ressources, on les fait rentrer membres. Et la conséquence de ça, c'est que dans le faisceau de droits d'Ostrom, dans les règles, au lieu de donner seulement des droits à des humains d'agir sur des non-humains, on donne aussi des droits aux non-humains, comme le fait le projet Vercors Vie Sauvage, et on fait un équilibre dans les communs entre les droits des humains et les droits des non-humains. Et d'ailleurs, les communs, ça devrait être l'institution qui réglera cette question de l'équilibre entre les droits des humains et les droits des non-humains. Et je vous ai mis en conclusion, là, c'est une citation d'un Américain, c'était un forestier, c'est une des personnes qui a été à l'origine des parcs naturels aux États-Unis, qui s'appelle Aldo Leopold, et c'est lui qui a introduit la notion de communauté biotique. Et je vous ai mis cette citation, il dit « La montagne qu'il faut déplacer pour libérer le processus vers une éthique, c'est tout simplement ceci, cesser de penser au bon usage de la terre comme un problème exclusivement économique, examiner chaque question en termes de ce qui est éthiquement et esthétiquement juste, autant qu'en termes de ce qui est économiquement avantageux. Une chose est juste lorsqu'elle tend à préserver l'intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté biotique. Elle est injuste lorsqu'elle... » Voilà, je pense que c'est une sorte de boussole qui pourrait pas mal nous aider à relire en fait toute cette théorie des communs. Merci pour votre attention. Désolé d'avoir été un peu long.